Merci d'écouter RFI, il est 4h30 à Paris, 3h30 temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
La vie reprend doucement à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la capitale provinciale du Sud Kivu, sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises. Depuis dimanche, les habitants ressortent de chez eux avec pour objectif de trouver de quoi se nourrir. Sur le plan diplomatique, le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a dit craindre un embrasement régional de ce conflit. Il souhaiterait un dialogue entre ses homologues Paul Kagame et Félix Tshisekedi et propose d'en être le médiateur. Des affrontements inquiétants au Soudan du Sud entre l'armée régulière et des forces d'opposition qui font craindre un retour à la guerre civile à certains observateurs. Et puis on s'intéressera aussi à cette conférence de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la sécurité routière qui débute aujourd'hui au Maroc. C'est la première fois que l'OMS organise cet événement sur le continent particulièrement touché par la mortalité sur les routes. Après l'entrée du M23 dans la ville, la vie reprend timidement à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé, appuyé par les troupes rwandaises, s'est emparé de la capitale provinciale du Sud Kivu dimanche. Poussé par la recherche de nourriture principalement, les habitants ressortent petit à petit de chez eux. Willy Diallo.
Après avoir passé deux jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle.
Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger car depuis vendredi, nous étions enfermés à la maison. Je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider.
Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et aux pillages des magasins et marchés. Hortense a passé deux jours à entendre les balles siffler autour du camp Saïo.
Je vois que nous pouvons déjà commencer à vivre, mais avec précaution. Il n'y a aucun mouvement qui peut nous rassurer que l'on peut déjà marcher avec certitude. Moi, souvent, je vois des véhicules des militaires passer. J'entends qu'ils tiennent un meeting. Peut-être que je serai rassurée.
Didas observe et regarde les quelques motos et taxis qui circulent. Les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention.
On a passé des moments très très difficiles. Les armes qui circulent parmi les civils, c'est un grand danger.
Le CICR alerté hier sur les nombreux blessés de guerre par balles et explosifs arrivés dans les centres de soins. L'organisation espère aussi pouvoir identifier les morts et leur donner une sépulture décente.
Récit de Willy Diallo. Ces combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise provoquent des déplacements de population vers le Burundi. Hier, le gouvernement burundais a en effet indiqué que 10 000 personnes avaient franchi la frontière ces trois derniers jours. Après, le président burundais justement, Évariste Ndayishimiye, c'est au tour de celui du Congo Brazzaville d'exprimer sa crainte de voir les combats dans l'est de la RDC devenir un conflit régional. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé chez nos confrères de France 24 dimanche soir depuis Addis Abeba où se tenait le sommet de l'Union africaine. Il plaide pour une rencontre entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. La priorité selon Denis Sassou Nguesso, c'est le dialogue et lui se voit bien en médiateur. Écoutez.
Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. Donc, je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. On est dans une situation de conflit. Chaque parti essaye de tirer quelque avantage. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution.
Denis Sassou Nguesso sur France 24 qui s'exprimait depuis Addis Abeba où se tenait le sommet de l'UA, la commission de l'Union africaine justement, qui a un nouveau président, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères djiboutien qui était nommé samedi. Et ce résultat, c'est une gifle que la présidence kényane a du mal à encaisser. Son candidat, l'opposant historique Raila Odinga, s'est incliné. Et aujourd'hui, c'est William Ruto qui en fait les frais. Pour de nombreux observateurs, C'est bien la politique du président kényan qui serait la cause de cet échec, Gaël Lalex.
Pour le sénateur Richard Onyonka, la diplomatie de William Ruto était un boulet au pied de Raila Odinga. Il lui reproche notamment ses liens avec Emeti, le chef des forces de soutien rapide, paramilitaire engagé dans la guerre contre l'armée soudanaise. Le Kenya soutient également Israël et n'a pas condamné les atrocités commises à Gaza, poursuit le sénateur. Mais c'est surtout la crise dans l'est de la RDC qui a pesé, selon Kalonzo Musyoka. L'ancien vice-président de Mwai Kibaki pointe du doigt la médiation ratée du processus de Nairobi, ainsi que la position ambiguë de William Ruto. N'est-ce pas dans la capitale kényane que l'alliance fleuve Congo, branche politique du M23, est née? Et puis, il y a ce coup de fil au président français au lendemain de la chute de Goma. Qui veut s'engager avec Emmanuel Macron sur des questions africaines, interroge Pielo Lumumba, directeur de l'école de droit du Kenya. Enfin, selon l'avocat David Ochami, William Ruto n'a dupé personne sur ses réelles intentions. Il ne soutenait Raila que pour se débarrasser de son principal opposant, explique-t-il. 33 chefs d'État ont refusé d'être otage de la politique domestique kényane, conclut sur X le porte-parole du nouveau président de la commission. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Au Soudan du Sud voisin, des combats au relent de guerre civile. Ces affrontements opposent l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir et les forces de l'opposition, loyales, elles, au vice-président Riek Machar. Tous deux avaient pourtant signé l'accord de paix de 2018 pour mettre fin à la guerre civile commencée 5 ans plus tôt. Des incidents sécuritaires enregistrés dans plusieurs régions, mais les derniers combats ont eu lieu dans le village de Nassir, au nord-est du pays, provoquant la fuite d'une partie de la population, Florence Mieto.
Chaque camp donne sa version. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise du président Salva Kiir accuse les forces armées de l'opposition de constamment inciter les jeunes armées. Mais le commissaire du comté de Nassir, membre du parti de Riek Machar, accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir lancé une attaque sur des civils dans le marché, provoquant de lourds combats, a-t-il déclaré. Et si les combats de Nassir n'opposent pas directement l'armée sud-soudanaise aux forces de l'opposition, mais plutôt à de jeunes civils armés, ils ont lieu dans un contexte particulièrement tendue. En effet, depuis début janvier, chacun s'accuse d'être à l'origine des tensions et la presse locale en fait largement écho. Selon le militant de la société civile Termanian Gatwetch, les activités de recrutement de l'armée sud-soudanaise sont perçues comme, et je cite, une manœuvre stratégique. Pour Edmund Yakani, autre représentant de la société civile, ces combats vont à l'encontre du cessez-le-feu. Il craint que le pays ne replonge dans une guerre civile à grande échelle. Les combats de Nassir rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création de forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Madagascar veut dépoussiérer son secteur pétrolier. L'octroi de permis, en effet, est gelé depuis 6 ans. Mais début janvier, le conseil du gouvernement malgache a annoncé vouloir assainir et relancer ce pan de son économie. La grande île dispose, en effet, d'un large bassin sédimentaire, aussi bien sur terre qu'en mer. Et cela peut laisser présager des gisements d'hydrocarbures. Mais faute de moyens, aujourd'hui, la seule entreprise qui possède encore un bloc pétrolier, Madagascar Oil, ne l'exploite plus depuis maintenant 9 ans. Le gouvernement compte donc trouver de nouveaux investisseurs afin de relancer les explorations, Sarah Teto.
Les études menées jusqu'à présent sur et autour de l'île ont montré un vrai potentiel en matière de pétrole, gaz naturel, huile lourde et grès bitumineux, affirme Olivier Rakoutmalal, le ministre des Mines. Aussi, Madagascar ne doit pas manquer le coche.
L'énergie fossile joue encore un grand rôle dans le mix énergétique mondial. Les récentes découvertes d'hydrocarbures au niveau de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Kenya, Tanzanie, ça a suscité un grand intérêt au niveau de l'investissement en termes d'exploration. Bien évidemment que les annonces du président Trump au sujet du forage pétrolier ne font que renforcer la décision du gouvernement à relancer le secteur pétrolier amont.
Seulement, pour pouvoir allouer de nouveaux blocs pétroliers, l'État doit d'abord assainir l'existant, à savoir 22 blocs déjà attribués et qui appartiennent toujours juridiquement à une quinzaine d'entreprises internationales.
Ces blocs pétroliers ont été attribués à partir des années 2000 par décret présidentiel. Pour libérer ces blocs, nous devons prendre un décret pour pouvoir les annuler et pouvoir de nouveau attribuer ces blocs à des nouveaux investisseurs. Nous devons aussi mettre à jour le modèle de contrat de partage de production pour le rendre beaucoup plus équitable et qu'il réponde mieux aux attentes environnementales et sociales qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans.
Le ministère espère annoncer la réouverture des blocs pétroliers au plus vite. Plusieurs grandes majors ont déjà fait part de leur intérêt. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et on reviendra reviendra sur l'actualité minière du continent dans Afrique Économie, consacrée ce matin au sommet Mining Indaba qui se tenait en début de mois en Afrique du Sud. Rendez-vous dans une dizaine de minutes sur RFI. Chaque minute en moyenne dans le monde, 2 personnes décèdent sur la route. Ce chiffre concernant l'année 2021 a été dévoilé dimanche par l'OMS dans sa dernière étude sur le sujet. Cela représentait près d'1 200 000 morts. Pour la toute première fois, l'Organisation mondiale de la santé toujours organise sa conférence ministérielle sur la sécurité routière en Afrique. L'événement s'ouvre ce matin à Marrakech au Maroc et il y a beaucoup de travail pour atteindre les objectifs fixés par l'organisation. Une très légère baisse de 5% est observée par rapport à 2010, toujours bien loin donc de la baisse de moitié du nombre d'accidents de la route souhaité sur 10 ans. Des données alarmantes, d'autant que pour certains pays, notamment africains, les chiffres officiels communiqués par les États sont souvent largement sous-estimés, selon Étienne Krug. Il est directeur du département des déterminants sociaux de la santé à l'OMS.
La sécurité ou l'insécurité routière est la première cause de mortalité chez les jeunes, la 12e cause de mortalité tout âge confondu, et tue 1 200 000 personnes chaque année. Et le but de la conférence est vraiment d'accélérer le progrès. Le monde vit énormément de difficultés pour l'instant, des crises du changement climatique, retrait de l'aide au développement, les guerres. Cette crise de l'insécurité routière est une qu'on peut résoudre relativement facilement. On a les solutions, il faut une décision politique au plus haut niveau de chaque pays, de se dire, voilà, ça suffit, on ne veut plus payer ce prix pour notre mobilité, on va s'attaquer à l'insécurité routière. Ça nécessite un petit investissement financier au départ, mais on le récupère largement par après. Et bien sûr, en vie sauvée également.
Un propos recueilli par François Mfer Kataji, dossier complet à retrouver à 6h30, temps universel. Et puis, en football, il reste 90 minutes pour gravir une marche de plus vers le Graal. La Ligue des Champions continue ce soir avec le début des barrages retour. Parmi les équipes en difficulté, l'Atalanta Bergame, les Italiens battus à Bruges, 2-1 la semaine dernière, espèrent pouvoir compter sur le retour d'un cadre de l'équipe, le Nigérian Ademola Lookman, qui semble enfin disponible pour retrouver les terrains. Cédric De Oliveira.
Son retour était très attendu. Alors lorsqu'il s'est présenté hier sur le terrain d'entraînement, sans boiter, c'est toute l'Atalanta Bergame qui s'est sentie soulagée. Déjà présent pour la séance de ce week-end, Ademola Lookman a donc retrouvé ses partenaires sans encombre après plusieurs semaines d'absence. Depuis sa contusion au genou droit le 25 janvier, le Nigérian a manqué 5 matchs, dont 2 en Ligue des Champions. Une sacrée perte pour les Lombards. Lookman est sans doute le joueur le plus percutant du club italien et il est efficace. Auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa l'an dernier, il a inscrit 10 buts en Serie A auxquels il faut ajouter 5 passes décisives. Cette saison en Ligue des Champions, il a marqué 4 fois. Et en l'absence du meilleur joueur africain de l'année dernière, l'Atalanta l'a payé lors de ses dernières sorties en Coupe d'Europe. Un match nul contre le Barça et surtout cette défaite en barrage retour contre Bruges la semaine dernière. Même s'il n'est pas sûr d'être titulaire, les supporters lombards espèrent donc le voir au moins jouer quelques minutes pour aider son club à arracher sa qualification.
Cédric De Oliveira, Atalanta Bergame, Bruges, coup d'envoi 20h, temps universel. Même chose pour Benfica, Milan AC, Bayern Munich, Celtic Glasgow, le Milan AC qui recevra le Feyenoord Rotterdam à partir de 17h45 TURFI. Il est 4h34 à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Et au sommet des 15 prochaines minutes, la suite de notre série de reportages cette semaine dans le nord du Bénin, zone exposée aux attaques terroristes du JNIM. Certaines familles vivent dans la peur et décident de partir de chez elles. Ce matin, Magali Lagrange vous emmène à la rencontre d'un groupe de déplacés qui s'est réfugié à Malanville, près de la frontière avec le Niger. Les États-Unis de Donald Trump boudent la grand-messe du secteur minier en Afrique. Le Mining Indaba se tenait au début du mois au Cap, en Afrique du Sud, mais avec la nouvelle administration américaine qui continue de se mettre en place, les partenariats sont remis en question. Dans votre chronique Matières premières, Marie-Pierre Olfan s'intéressera à l'Union européenne sous perfusion de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie, malgré une volonté affichée de s'en détacher. Et puis l'actualité de l'océan Indien avec nos confrères de la première et la mort dans l'œuf des liaisons aériennes entre Mayotte et la Réunion de la compagnie Flyly. Le nord du Bénin dans la peur des attaques terroristes. Samedi, c'est une position de l'armée béninoise dans le parc W qui a été prise pour cible par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avait également revendiqué le massacre de plus de 30 soldats béninois dans cette zone dite du point triple à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Ces événements attisent la crainte de certains habitants qui préfèrent fuir. La plupart sont ensuite hébergés dans des familles d'accueil. Pour notre deuxième reportage de la semaine sur la situation sécuritaire dans le nord du Bénin, notre envoyé spécial Magali Lagrange a rencontré un groupe de ces personnes déplacées qui s'est installé dans la commune de Malanville à la frontière avec le Niger.
Il y a quatre cases. Tu as vu ? C'est ici que le mari et la femme se couchent. Bon, c'est comme ça qu'ils se sont restés. Dans la saison des pluies, il faut qu'ils cherchent de l'herbage et ils couvrent les paillotes.
Deux petites cases munies de couchettes réparties sur un grand terrain au sol en terre. Quelques enfants pile du mille. Amidou Amina, relais communautaire à Malanville, aide plusieurs dizaines de déplacés installés là depuis 2 ans environ.
Bon, ils se sont déplacés par Malanville parce qu'ils ont dit que Malanville, c'est une grande ville. C'est pas dans la brousse comme on embête les gens. Ils sont en train de chercher l'aide. Il y a les maladies, la faim qui les entoure. En causant avec eux, ils avaient demandé de au moins faire un forage pour avoir de l'eau potable.
Une vingtaine de personnes sont assises sur 2 tapis, étendues à l'ombre d'un arbre. Parmi les femmes, Rukiatou, 48 ans, qui a quitté un village de la commune voisine de Karimama avec sa famille, ses 5 enfants.
Ici, on a l'esprit tranquille. Au moins, on peut arriver à dormir. Là-bas, on entendait le bruit des armes. Les enfants avaient peur tout le temps. Alors qu'ici, maintenant, nous n'avons plus peur des armes. Mais c'est très difficile de ne pas pouvoir faire de l'élevage ni cultiver. Il faut tout acheter, la nourriture, même le bois pour cuisiner. Si tu n'as pas les moyens, c'est difficile de vivre dignement. Cette situation est très compliquée pour nous. Même si on a eu la vie sauve, on traverse des moments très difficiles.
Les déplacés évoquent la peur des terroristes et parfois leur crainte des arrestations auxquelles procèdent les militaires. Maison, champ, ils ont tout laissé derrière eux, comme l'explique cet homme âgé qui prêchait dans sa communauté.
C'est un peu difficile. Beaucoup de gens ici sont sans emploi. Mais certains essaient quand même d'avoir une activité de petit commerce. Il y a ceux qui remplissent des récipients d'eau, qui les vendent. Il y en a d'autres qui vont couper de l'herbe et du bois dans la forêt pour les vendre.
Des activités de substitution en attendant de pouvoir rentrer quand la situation le permettra. Il y a un an, l'OIM recensait plus de 12 000 déplacés internes dans les départements de l'Alibori et de l'Atakora dans le nord du Bénin. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Et un nouveau reportage de notre série consacrée au nord du Bénin à retrouver chaque jour à l'antenne d'RFI et à tout moment sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Paul Lancin-Spinelli.
Un tour d'horizon des principaux titres de l'actualité de ce mardi 18 février. Marco Rubio et Sergueï Lavrov, les chefs des diplomaties américaines et russes, se retrouvent à Riyad en Arabie Saoudite. Première rencontre américano-russe à ce niveau depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près de 3 ans. Rencontre qui intervient en pleine effervescence diplomatique déclenchée par la conversation Trump-Poutine de la semaine dernière qui a brisé l'union des Occidentaux face à Moscou. Réunis en urgence hier à Paris, justement, les dirigeants européens ont tenté de parler d'une seule voix malgré leur division sur l'envoi de troupes de maintien de la paix. Une paix solide et durable en Ukraine doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles, a déclaré Emmanuel Macron sur X mardi matin à l'issue de la réunion, après laquelle il dit s'être entretenu avec les présidents Trump et Zelensky. Le pape François, à 88 ans, hospitalisé depuis vendredi à Rome pour une infection des voies respiratoires, affiche un tableau clinique complexe selon le Vatican. Le Saint-Siège n'a pas communiqué sur la date à laquelle le pape pourrait quitter son hôpital de Rome. Et puis l'ouverture hier à Paris du procès de 5 djihadistes du groupe État islamique. À l'ouverture de l'audience, l'un des accusés, Mehdi Nemouch, a prétendu ne jamais avoir été le geôlier des 4 journalistes français détenus en Syrie en 2013 et 2014. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. C'est le rendez-vous incontournable pour rappeler que les sols africains regorgent de richesses. Le Manig Indaba, sommet sur les mines en Afrique, s'est déroulé au début du mois dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et le continent a de quoi plancher sur la question. Selon les estimations, 30% des réserves en minerais critiques, essentielles pour la transition énergétique, sont effectivement enfouies en Afrique. D'habitude, parmi les principaux intéressés, il y a les Américains. Mais cette année, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble changer la donne. C'est le dossier d'Afrique Économie signé de notre envoyé spécial au Cap, Claire Bargelès.
La délégation américaine s'est réduite comme une peau de chagrin cette année, tant sur la scène du Mining Indaba que dans les allées du salon. Seul représentant à prendre la parole, Scott Woodard, le secrétaire adjoint par intérim spécialisé sur les questions de transformation énergétique auprès du département d'État. Il est resté très vague sur la politique minière à venir.
L'un des premiers décrets signés par le président dès son arrivée au pouvoir concerne l'extraction et la transformation de minerais, surtout aux États-Unis. Mais si on le lit de plus près, il y est aussi fait mention à de multiples reprises des partenariats internationaux et de la coopération avec d'autres nations.
La nouvelle administration ne s'est pas encore totalement installée et on attend toujours la nomination de l'équipe Afrique de Donald Trump, bien que son ancien envoyé spécial pour le Sahel et les Grands Lacs, Peter Pham, soit pressenti. Selon les experts, le corridor de Lobito devrait continuer à être développé. La modernisation de cette ligne ferroviaire pour faciliter le transport de minerais de la RDC et de la Zambie vers l'Angola, afin de les exporter depuis la côte ouest du continent, rentre dans la logique de concurrence avec la Chine. Mais un point d'interrogation flotte au-dessus d'autres partenariats, selon Vincent Rouget du cabinet Contrôle Risque.
Les compagnies continuent, mais après, elles ont souvent besoin de certains mécanismes d'aide de l'État américain pour finalement dérisquer certaines transactions qui pourraient être dans des pays compliqués ou des nouveaux marchés. On voyait souvent l'État américain intervenir soit par les biais de la diplomatie pour faciliter les échanges, les négociations, soit par le biais d'aides financières ou de garanties, de prêts. Et là, on a un point d'incertitude, voilà, sur est-ce que ça va continuer pour l'instant. C'est trop tôt pour le savoir.
Côté sud-africain, le ministre des Mines, Gwede Mantache, souhaite durcir le ton pour répondre au gel de l'aide américaine décidé par Donald Trump.
S'ils ne veulent plus nous donner d'argent, ne leur donnons pas de minerais. Nous avons des minerais sur ce continent, donc nous possédons quelque chose. Nous ne sommes pas de simples mendiants. Nous devons utiliser cette richesse à notre avantage en tant que continent. For our benefit
as a continent. Les doutes planent aussi au-dessus de la volonté des États-Unis de continuer à développer les chaînes de valeur ajoutée en Afrique, comme dans le cadre de l'accord signé avec la Zambie et la RDC pour fabriquer sur place des batteries électriques. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Et c'était la chronique Afrique Économie. C'est un lien plus difficile que prévu à briser pour l'Union européenne, l'UE, qui s'était fixé pour objectif pour 2027 de ne plus dépendre des combustibles fossiles russes. Mais la tâche semble encore très vaste, puisque l'an dernier, Marie-Pierre Olfan, les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe ont augmenté de près de 20%.
C'est une situation presque paradoxale. La consommation européenne de gaz naturel liquéfié a chuté l'année dernière à son plus bas niveau depuis 2021. Et la part du GNL dans la demande globale de gaz des Européens a aussi baissé. Mais les 27 pays membres de l'UE ont continué à se fournir en Russie et ont même acheté presque 20% de GNL russe en plus. Ce qui veut dire, pour parler argent, que l'UE a dépensé 6,3 milliards d'euros en GNL russe l'année dernière. Ces volumes sont entrés essentiellement via les terminaux portuaires espagnols, belges et français. Près d'un tiers sont passés par le terminal de Dunkerque. C'est donc la France qui a importé l'année dernière le plus gros volume de gaz naturel liquéfié russe, un volume qui a bondi de 81% par rapport à 2023. Mais ce chiffre serait trompeur selon une étude menée par plusieurs organisations non gouvernementales. La France serait surtout une porte d'entrée au service de l'Allemagne, un pays qui a banni l'importation de GNL mais qui recevrait une partie des volumes importés par la France et la Belgique grâce à une interconnexion qui permet d'acheminer le gaz facilement. Derrière ces importations, une société allemande qui aurait acheté 58 cargaisons de GNL l'année dernière à un fournisseur russe bien identifié. Le transit via d'autres pays européens aurait permis à l'Allemagne de blanchir en quelque sorte ses achats russes. Plusieurs ONG parlent de mascarade qui alimente l'économie russe et indirectement la guerre. À ce stade, l'Union européenne n'a pris aucune sanction sur le gaz naturel ni sur le GNL russe, seulement des mesures contre le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans les ports européens. Une interdiction prise en juin dernier qui devrait entrer en vigueur au mois de mars prochain.
C'était Marie-Pierre Olfan pour la chronique Matières premières. L'actualité de l'océan Indien avec nos confrères d'outre-mer, la première, avec à la une ces vols de Flylee qui ne décolleront peut-être jamais des aéroports de Mayotte et de La Réunion. Cette filiale de la compagnie croate EFT Airways aurait dû commencer ses liaisons le mois prochain. Elle vient d'annoncer que le projet était abandonné. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Un projet dont l'idée avait été évoquée en septembre dernier par le vice-président du conseil départemental de Mayotte en charge des transports. Sans trop de succès, il faut bien le dire, ses collègues semblant plutôt miser sur la compagnie mahoraise Zena Airlines. Explication Nassuf Jailani.
L'aventure tourne court au bout de la troisième tentative d'implantation, au grand regret des promoteurs du projet localement, au premier rang desquels l'actuel troisième vice-président du département, M. Omar Ali, en charge des transports.
Le président du département, clairement, n'a pas soumis le projet à l'Assemblée. Du coup, ils se sont rétractés puisque ils payent de loyers, ils payent du personnel sur place sans qu'il y ait des garanties de pouvoir avoir une aide du département. C'était leur condition pour pouvoir s'engager sur le territoire.
Trois vols étaient prévus entre La Réunion et Mayotte dans un premier temps, avant d'autres destinations vers Madagascar ou les Comores. Un partenariat a même été signé avec le département de Mayotte et la filiale de la compagnie croate EFT Airways Flylee. Du personnel a même été embauché, un local loué, mais tout cela ne sera pas suivi des faits. À ce jour, l'élu en charge des transports au département ne croit pas au projet de Zena Airlines.
Zena n'a pas les capacités d'avoir des certifications immédiatement et d'avoir des avions immédiatement et d'avoir un personnel immédiatement. Donc, sachez qu'un avion ne permet pas de faire de rotation. Il faut au moins deux, voire trois appareils pour permettre à une compagnie de démarrer sur de vols long courriers.
Zena Airlines attend un financement de l'Union européenne qui conditionnera le soutien du département de Mayotte. En attendant, les Mahorais continueront de payer le prix cher de leur éloignement et de leur enclavement.
Direction La Réunion. Comme annoncé par la préfecture, dans le cadre du plan anti-bande, les contrôles de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, se renforcent pour les familles dont les enfants se retrouvent impliqués dans des faits de violence. Réclamée par de nombreux élus, cette mesure ciblerait notamment ces mineurs venus de Mayotte et qualifiés d'isolés. L'idée n'étant pas d'en faire une généralité, mais sans pour autant nier l'existence du phénomène, comme l'a expliqué hier matin sur les ondes de la première Réunion, le directeur de la CAF, Guillaume Lacroix, il répondait aux questions de Cécile Thomas.
On a un certain nombre d'enfants sur le territoire qui sont recueillis. Ça ne veut pas dire que les parents sont en dehors du territoire. Les parents peuvent habiter à Saint-Pierre et l'enfant être recueilli par la famille à Saint-Denis. Et les parents peuvent à ce moment-là faire un choix. C'est-à-dire que celui qui recueille l'enfant qui bénéficie des prestations familiales. Et à ce moment-là, on va bien vérifier que l'enfant est bien pris en charge financièrement par la personne qui les recueille. S'il n'y a pas de prise en charge, à ce moment-là, on supprimera les prestations. C'est quelque chose qui est pas évident parce que l'idée, c'est pas de mettre en difficulté les familles. L'idée, l'idée, c'est de dire les prestations familiales viennent compenser un risque. Le risque, il est simple, c'est quand on a un enfant, on a des surcoûts. Donc on vient aider, solvabiliser les familles pour qu'elles puissent assumer l'ensemble des charges qui pèsent avec l'arrivée d'un enfant. Si elles ne les assument pas, à ce moment-là, on ne verse pas de prestations, mais si elles les assument, on va verser les prestations, évidemment. Et ce qu'il faut entendre, ce sont des situations dans les quartiers qui sont compliquées. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt et dire « il n'y a rien, il y a des choses qui ne sont pas normales et sur lesquelles il faut agir ». Après, de là à dire que ça part dans tous les sens et qu'il y a une grosse dérive, difficile à dire.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée Benoît Ferrand et merci. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Thierry Le Saint était à la réalisation, Pierre Pinto à la rédaction en chef. Je vous rappelle que toute l'actualité africaine est disponible à tout moment sur notre site www.rfi.fr et sur l'application mobile RFI. Dans un peu moins d'une minute, le retour du reste de l'actualité internationale avec Marion Kazanov et à la une le retrait incomplet du Liban de l'armée israélienne. Merci et bonne journée sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi tout est une histoire de molécules ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
De notre premier souffle jusqu'au dernier, les molécules qui nous constituent interagissent sans cesse.
Elles se rencontrent, s'emboîtent et se séparent. La vie, l'amour,